des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h, c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, on va parler du goût du détail, du regard aussi de l'écrivain sur ce qui le dépasse, l'enchante, le fascine peut-être, de la nécessité aussi d'entrer dans l'intimité d'une création qui n'est pas de lui, mais qui lui parle, texte ou image. On va parler de tout cela. Nos invités sont deux grands fascinés, j'utilisais le mot, par Virgile pour Frédéric Boyer, qui publie une nouvelle traduction chez Gallimard d'un texte iconique, comme on dit aujourd'hui, de l'Antiquité, les Géorgiques de Virgile, sous le titre « Le souci de la terre ». Face à lui, Yannick Enel, fasciné, lui, par le peintre Caravage, et qui publie chez Fayard « La solitude, Caravage », un texte sur sa découverte assez romanesque, hautement sensuelle, de la peinture du génie, sans doute faut-il dire génie, à la bibliothèque du Prytanée de la Flèche, alors qu'il était adolescent, et ce fut comme une apparition, un coup de foudre même, on peut dire. Bah tiens, on commence par vous, Yannick Enel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé la revue Ligne de Risque, vous avez obtenu le prix Décembre pour Cercle, le prix Interallié pour Yann Karski, le prix Médicis pour Tiens ferme ta couronne chez Gallimard, sur un homme qui s'intéressait aussi à l'œuvre d'un autre, Herman Melville plus précisément. Il avait écrit, cet homme, un énorme scénario sur la vie de Melville dont il aurait voulu qu'elle devienne un film, et voilà. Personne n'en voulait, c'est ce que racontait Tiens ferme ta couronne. Dans ce nouveau texte, ce n'est pas entre le cinéma et la littérature que vous vous promenez, mais entre la littérature et la peinture, puisque votre texte vous confronte à l'immense peintre, le Caravage, qui vous apparaît à travers une femme, la Judith de Judith et Holoferne, dans un beau livre sur la peinture italienne, alors que vous êtes adolescent et interne. La fascination est là pour la beauté de cette femme, dont l'environnement et même l'activité couper une tête vous échappe alors, car la reproduction est ainsi cadrée qu'elle laisse tout cela en dehors. Fascination pour certains détails aussi, les sourcils froncés et la perle qui orne son oreille, dont vous écrivez, je vous cite, c'est page 10. À son oreille, une adorable perle était fixée par un nœud de velours noir dont la boucle formait un papillon. Il arrive qu'un détail rivalise avec le monde. Cette perle, ce papillon noir, me plaisait à ce point qu'ils jouèrent un rôle crucial dans ma vie. Je peux dire qu'ils veillèrent ensemble sur mon désir. Ils en étaient l'image. Ils en devinrent même la clé. C'est très beau, Yannick Enel.
Ah, merci, mais ça y est, vous avez tout dit.
Non, presque, en fait, la clé. La clé, mais on va maintenant se pencher sur la serrure.
La serrure, la
peut-être.
Porte.
Voilà. Alors votre texte, il hésite, ou plutôt il hésite pas, parce qu'il fait les deux, entre d'un côté le récit apocalyptique, au sens étymologique, de révélation, entre le récit donc de ce que ce tableau vous révèle, sur vous, un désir, une vision du monde, puis de l'autre, une promenade biographique dans l'art et dans la vie chaotique de cet homme qui vous a offert donc vos premiers vrais émois, aussi esthétique qu'érotique, quand vous fûtes face à cette femme aux sourcils froncés et aux beaux seins moulés dans un chemisier blanc, écrivez-vous. La solitude Caravage, Yannick Enel, c'est le titre de votre livre. Est-ce qu'il s'agit de la solitude du Caravage ou de celle que le Caravage impose à tout être qui regarde son œuvre, puisque, au fond, quand vous découvrez enfin à Rome le tableau dans sa totalité, Judith et Holoferne, Palais Barberini, celle qui vous accompagne et qui ressemble d'ailleurs à la Judith du tableau, quitte immédiatement le palais qui abrite la toile et vous laisse seule.
Et me quitte aussi, oui.
Et vous quitte, ah oui, vous, totalement. D'accord.
Absolument.
Donc c'est quelle solitude? Cette solitude Caravage, la formulation est étonnante.
Oui, d'ailleurs, mon éditeur au départ pensait qu'il y avait une faute, que c'était la solitude de Caravage ou du Caravage.
Moi, j'ai les premières épreuves non corrigées, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de faute.
Non, il n'y a pas de faute. La solitude Caravage, j'ai pensé qu'il y avait une dimension de la solitude en chacun de nous, au fond, qui ne pouvait être dit, qui ne pouvait s'exprimer que par ce que le Caravage a fait émerger depuis ce noir où ses figures peintes sortent. Comme il y a une dimension de la vie qui est proustienne pour nous désormais, enfin, il y a des choses qui sont comme ça liées à Swann ou aux autres. Pour moi, il y a une dimension de la vie qui est caravagesque. Et cette dimension, elle est liée à la fois à ce dont vous parliez, c'est-à-dire la délicatesse de certains détails, ce que Nabokov appelait des étincelles sensuelles. Alors pour moi, c'est cette perle à jamais fixée au bout d'un ruban de velours noir à l'oreille d'une jeune femme. Mais c'est aussi la très grande violence, c'est-à-dire c'est une peinture au couteau. Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné, comme vous dites, de manière absolue par Francis Bacon. Et je me suis aperçu qu'il y a déjà du Francis Bacon dans le Caravage. Enfin, s'il y a une transmission poétique à travers le temps, et je crois qu'elle existe, cette transmission, on va parler de Virgile grâce à Frédéric Boyer, qui est un grand fleuve de langage, comme dit Dante. Eh bien, si cette transmission existe, elle se fait à travers la manière qu'ont eu certains peintres, non pas de violenter le réel, mais de le dénuder au point qu'on voit la violence qui fonde ce réel. Alors, toute la vie du Caravage et toute son œuvre sont travaillées par le crime. Vous savez qu'il a tué quelqu'un, bon, c'est un...
Ranuccio.
Ranuccio Tomazoni, voilà. Un sale type.
Un proxénète, proxénète, hein,
oui.
Mais oui, mais
oui. Oui, voilà, bon.
Frédéric, vous voyez,
sourit,
tout de suite, et oui, les grands mots.
Mais je crois que c'est, à ma connaissance, c'est le seul peintre qui a tué quelqu'un, et comme par hasard, enfin, je veux dire, par là, qui est...
Beaucoup se sont tués.
Beaucoup se sont tués. Et la mort est la grande chose dans l'œuvre du Caravage, évidemment.
Et sur ce terme de solitude, justement, la solitude Caravage, c'est-à-dire que Caravage c'est mis pour caravagesque, en fait, mais c'est la solitude aussi du personnage, enfin du narrateur, de vous, Yannick Enel, devant ces tableaux, qui se contemple, qui se regarde d'autant mieux qu'on est seul.
C'est-à-dire que le livre raconte un apprentissage qui se transforme en enquête, puisque je me suis mis à enquêter sur l'objet de cette passion, à savoir cette femme, la Judith, dans Judith et Holofernes. Et effectivement, je pense que ce qui nous voue à regarder sans cesse des images peintes, ce qui nous voue à cette fascination, c'est que ça nous renvoie à une solitude peut-être plus originelle que celle qu'on trimballe dans l'existence. C'est une très ancienne solitude, enfin, qui nous... Je sais pas si elle nous fonde, elle nous déforme en tous les cas, elle nous fait
c'est
parler.
C'est Rimbaud qui parlait de très ancienne peinture.
Exactement,
c'est ça, ouais.
Très ancienne. Ouais. Il parlait des femmes, des peintres anciens. Ouais. Et bon, la solitude, je sais pas, enfin, il me semble que c'est la très grande chose. Enfin, il n'y aurait pas d'amour sans solitude. La solitude à deux, la solitude qui nous déchire, qui nous divise. Là aussi, c'est quelque chose qui a lieu, le couteau à la main. Enfin, ne serait-ce que, non pas pour se suicider, non pas pour tuer, mais pour séparer, pour enfin se rencontrer. Enfin, je crois que l'amour, enfin, puisqu'il s'agit de ça, est dans les Géorgiques, qu'a traduit Frédéric, et dans mon livre. L'amour, ça ne va pas sans dire, d'une part. Et d'autre part, ça ne va pas sans une grande violence qui est celle du déchirement, l'appel et le déchirement.
Vous aimez le Caravage, Frédéric Boyer ?
Ouais, bah, oui.
Non,
non, mais
non, enfin pourquoi ?
Non, mais parce que c'est un peu, c'est une rencontre effectivement qu'on a avec lui là. Et moi, je trouve que le titre, La solitude de Caravage, c'est une belle chose parce que c'est une attribution, c'est la solitude et Caravage, voilà. Donc c'est un problème de traduction. Donc il vaut mieux mettre la solitude Caravage que la solitude et Caravage, mais c'est ce que ça dit, cette violence. Et je pense que chez lui, effectivement, il a peint la solitude. Enfin, il a, et c'est très beau le personnage de Judith aussi. Elle est telle que tu l'as décrit. Elle est effectivement, elle est prise comme ça dans cette solitude qui en fait un objet de fascination. Voilà, c'est beau. Puisque vous vouliez qu'on parle de fascination.
Ouais, je trouve que pour vous,
la fascination crée la solitude.
Exactement. Exactement. Frédéric Boyer, on a déjà eu le plaisir de vous accueillir ici. C'était pour Saint-Augustin, votre nouvelle traduction des confessions que vous appeliez les aveux. C'était chez POL. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, romans, essais, traductions, donc la plupart chez POL, maison d'édition que vous dirigez désormais depuis la mort, saluons ici sa mémoire, de votre ami, hein, Paul Tchaïkovski-Laurence. Parmi ces livres, il y a Des choses idiotes et douces, un roman que vous avez publié en 1993, qui a obtenu le prix du Livre Inter, mais aussi Phèdre les oiseaux, écrit pour le théâtre, qui a été librement inspiré de l'histoire de Phèdre et Hippolyte, mis en scène avec l'actrice franco-palestinienne Yam Abbas. C'était déjà une plongée dans l'œuvre d'un autre, mais j'aurais pu citer aussi Rappeler Roland, un essai, une adaptation du récit fondateur de la littérature française, la chanson de Roland, ou rappeler que vous avez dirigé en 2001, pour Bayard, une nouvelle traduction de la Bible avec à la fois des spécialistes des textes bibliques et des langues bibliques, mais aussi des écrivains. Il y avait Olivier Cadiot, Jean Echenoz, Valère Novarina ou encore Jacques Roubaud. Vous avez enseigné la littérature comparée à l'université de Lyon 3, celle de Paris 7 aussi, mais aussi à la prison de la santé. Ouais, c'est une forme d'université...
Bah oui, non, c'était à l'époque on appelait ça la section des étudiants empêchés. C'était voilà, donc c'était j'ai rencontré des gens formidables. Vous êtes dans une petite cellule qui fait office de salle de classe et pour le coup, vous êtes assez seul effectivement avec 4-5 types Et on, voilà. Et
on, vous parliez de littérature.
On parlait de littérature, la littérature, là, devient vraiment ce qu'elle est, finalement, ce qu'elle devrait toujours être, c'est-à-dire quelque chose qui vous convoque à l'existence. Ouais. Bon, c'est pas, c'était une... Mais ça a 3-4 ans, et après, ça a été, c'était très compliqué de, à la fois de poursuivre et d'arrêter en même temps.
Et depuis des années, oui, qui s'aime bien, qui vous convoque à l'existence. Très belle définition de la littérature. Depuis des années, vous partagez, si j'ose dire, entre l'écriture personnelle et la relecture, la traduction de grands textes anciens. Donc j'en ai cité quelques-uns, mais j'aurais pu parler aussi du Kama Sutra, de Richard II, de Shakespeare, qui avait été monté dans la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon avec Denis Podalydès. Et aujourd'hui, nouveau défi, je ne sais pas si c'est un défi d'ailleurs, en tout cas le défi est relevé puisque vous publiez donc chez Gallimard cette nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, donc long poème de près de 2000 vers, écrit entre 37 et 30 avant Jésus-Christ. On dit que c'est l'un des sommets de la création poétique occidentale, un texte inspiré par Hésiode qui chante l'art et les techniques agricoles, l'élevage, l'apiculture, la culture de la vigne, la beauté du monde, la mythologie aussi y est convoquée, la place de l'homme dans ce monde. Vous lui donnez à ce texte un autre titre que celui qu'on lui connaissait, puisque vous le baptisez ou le rebaptisez Le souci de la terre. Changer un nom, est-ce que c'est pas changer son identité? Et pourquoi est-ce que vous vouliez lui donner une autre identité en 2019 à ces Géorgiques qui deviennent le souci de la terre, comme les confessions étaient devenues les aveux?
Non, alors c'est pas pareil. Ouais. Non, mais c'est ma petite coquetterie, mais pourquoi pas d'ailleurs. Ouais. Non, d'abord les aveux, ça c'était. On va pas repartir sur les aveux, mais c'était une traduction du latin confessio, ça signifie l'aveu, ça signifie pas la confession, qui est une translittération française du mot latin. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais et qu'à l'époque d'Augustin, quand Augustin choisit de dire, d'appeler ses 13 livres de ses confessio, donc de ses aveux, c'est parce que le mot a un sens très fort. En latin à l'époque, juridique, et que la confessio fidei à l'époque, je le rappelle, conduisait la plupart du temps à être tué. Voilà. Donc pour lui, c'était quelque chose. Voilà, bon, on ne va pas refaire ça. Mais le changement de titre, c'est aussi, c'est peut-être une coquetterie, mais je l'assume. Mais c'est aussi une façon de signaler qu'on se réintéresse à quelque chose, qu'on reprend à frais nouveaux la lecture et finalement de mettre ce texte ancien, pour le coup, là, très ancien, dans notre monde contemporain, dans notre réception contemporaine. C'est un signal, c'est pour dire attention, regardez ce texte, peut-être que c'est pas... Alors, ensuite, les Géorgiques, avouez que c'est un mot un peu compliqué, vous êtes vraiment des gens très cultivés, donc vous allez me dire tout de suite que vous le savez, mais les Géorgiques, on sait pas ce que ça veut dire, voilà. Là aussi, c'est une translittération française d'un mot latin qui est lui-même une translittération du grec. Voilà, c'est simple.
On peut le dire. Il n'est pas interdit de parler un peu grec.
C'est
dans
deux
émission.
Mots grecs. Gé, donc comme la guéméter, donc la terre, et ergon, alors qui est un mot très large en grec, qui signifie le travail, le labeur, mais aussi l'attention et d'une certaine façon l'inquiétude, le souci au sens d'attention portée à, voilà. Donc et qui en latin parfois est souvent traduit par cura, qui a la même polysémie, c'est-à-dire ça peut dire souci, soin, travail, attention,
oui,
amour, inquiétude, voilà. Voilà. Ouais, voilà. Donc et ensuite le changement de titre signale aussi une nouvelle forme d'interprétation, enfin voilà, donc et effectivement l'histoire de ce texte, une histoire assez belle, on se retrouve à la fin de la République, c'est la fin de la République après plusieurs années de guerre civile terrible, hein, qui ont plutôt ravagé toutes les campagnes de l'Italie, et un jeune chef militaire va devenir le premier empereur romain, hein, c'est Octave qui va devenir Auguste, voilà, et après ces déchirures et dont Virgile parle dans les Géorgiques, hein, après les guerres qui ont ravagé ces terres, il faut se remettre à s'intéresser aux terres, il faut se remettre à travailler les domaines, il faut surtout occuper tous ces soldats qui maintenant n'ont plus d'occupation militaire. Et donc, effectivement, il y a la volonté de redonner du sens à la culture des terres. Alors là, c'est une vieille tradition de l'Antiquité, dans le monde grec et dans le monde latin, on écrit des sortes de traités de la res rustica, c'est-à-dire de la chose agricole. Et Virgile va faire quelque chose que je trouve tout à fait étonnant et bouleversant et qui doit nous bouleverser encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il part de ce principe, il va s'en détacher très vite et il va faire un livre assez extraordinaire et qui est une véritable aventure, puisque le sujet, pour moi, le vrai sujet de ce livre, c'est, je vais le dire un peu directement, c'est qu'est-ce qu'on fout ici, sur la Terre, et quel est notre rapport à la Terre, et est-ce qu'il y a un autre rapport possible que ce rapport-là du vivant à la Terre, et il le dit alors qu'il est dans le monde de l'Antiquité, il va convoquer toutes ces histoires d'outre-tombe, d'outre-terre, de mondes infernaux, et il dira non, voilà, il n'y a qu'un monde, il n'y a qu'une Terre, c'est là qu'on habite, et après, voilà. Il n'y a plus rien.
D'où le souci de reprendre finalement le terme de cura, le soin, voilà, là, plutôt que le labeur, en fait,
oui,
qu'on avait
oui,
plus
oui,
dans
oui,
Georgos.
Je trouve que c'est plus joli de dire le souci, parce que son œuvre, justement, est de nous faire prendre conscience de cette attention que l'on doit porter à la terre, qui est unique, qui est seule, on n'en a qu'une, et c'est le vrai sujet du livre, c'est celui-là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec cette finale inattendue d'Orphée et d'Eurydice
voilà,
qui signe
cette
question.
Et on écoutera aussi, Orphée sera présent sonorement aussi dans cette émission. On va nous prendre soin de vos textes, Yannick Hennel et Frédéric Boyer, Le souci de la terre, donc chez Gallimard, nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, et La solitude Caravage chez Fayard. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Je suis très heureux de vous réunir parce qu'il me semble que vous aimez tous les deux relever une forme de défi littéraire. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue en lisant vos livres. D'un côté, un homme, vous, Frédéric Boyer, se repenche sur un texte mythique, quoique un peu oublié quand même. On lit davantage, pour peu qu'on la lise, mais j'espère, l'Énéide que les Géorgiques, et qui se penche sur ce texte pour le faire résonner différemment à l'oreille du contemporain. Vous nous l'avez un petit peu expliqué là. Et puis de l'autre, vous, Yannick Hennel, qui vous confrontez à l'œuvre d'un peintre écrasant, mais pour tenter d'en dire des choses autrement plus intimes et importantes que les clichés habituels qu'on entend sur lui, le mauvais garçon qui révolutionna la peinture. Est-ce que vous diriez, tous les deux, que vous avez écrit ces livres, ça a été prononcé par vous ce mot-là tout à l'heure, Yannick Hennel, pour faire acte de transmission, c'est-à-dire transmettre quelque chose sur ces œuvres qui ne sont pas de vous, mais néanmoins que vous décidez de prendre en compte pour ne pas qu'on oublie en fait certaines choses qui sinon, sans peut-être les écrivains, tomberaient justement dans l'oubli ou dans le cliché ou dans la superficialité des choses.
Mais oui, moi je cherche quelque chose, je cherche un lieu, je ne sais pas lequel. Et j'ai besoin d'une bibliothèque immense pour m'aider à cheminer. Et j'ai besoin de plus en plus du contraire des images contemporaines, c'est-à-dire de la peinture. Mmh. Cette chose étrange qui est liquide, qui est sous forme de pigments, de poudre, qui s'attache à nous, enfin, qui est comme la terre dont parle Virgile à travers les mots de Frédéric Boyer.
C'est terre de sienne, parfois, sur certaines teintes, d'ailleurs.
Par exemple. Utilise, voilà. Et parce qu'il s'agit tout simplement, pour moi, de la forme visible de la pensée. Le Caravage, je le dis comme ça, en improvisant, est un peintre qui pense. Il ne cesse de penser à ce qu'il en est de la dislocation du monde. Et c'est pas pour rien qu'il invente ce fond noir vers 1595. C'est la fin de la Renaissance. On peut plus croire en l'harmonie du monde. On peut plus croire en la beauté sans réplique des corps humains qui seraient idéalisés comme l'a fait Michel-Ange. Le Caravage enregistre une secousse qui relève pour moi du philosophique, enfin de la compréhension anthropologique de ce qui arrive au corps. Et il va non pas seulement dénuder les corps pour montrer les pieds sales de modèles de la rue, ça c'est une grande révolution de faire poser pour Jean-Baptiste, pour Jésus, pour les grands personnages de l'histoire sainte des ragazzi. Mais c'est surtout qu'il a une compréhension très précise et très folle, mais ça, très c'est emportée de ce qui se passe dans le monde.
Mais ça, c'est une leçon. Quand on parle de transmission, en tout cas, on se dit que c'est important pour aujourd'hui. Ça, c'est une leçon ou un enseignement que vous aimeriez justement transmettre, cette secousse dont vous parliez.
Oui, parce que je pense qu'il y a un épaississement de la sensibilité, enfin, dont nous sommes les témoins chaque jour, enfin. Et qui d'autre?
Vous êtes gentil.
Oui, c'est vrai. Je suis tendre. Voilà. Il y a quelque chose de terrible qui a lieu, qui pèse sur notre sensibilité, qui relève de l'insensé. Enfin, bientôt, on n'y verra plus rien.
Insensibilité. Et insensible et insensé.
Mais la perte de sensibilité conduit à l'insensé. Ce qui arrive planétairement, c'est quand même une mise en forme de l'insensé. Et précisément, passer, comme je l'ai fait, un an et demi à regarder des tableaux du Caravage, à y aller, je les ai presque tous revus, à passer non pas, comme on fait souvent, non pas 1 minute 30 sous la pression de la foule, mais passer une journée entière, s'asseoir sur les petits canapés, prendre des notes, regarder, mettre ses lunettes, regarder de loin.
C'est antidote à l'insensé.
Exactement, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Réapprendre à avoir des sensations qu'on ne peut pas contrôler. Et voilà, apprendre à voir. Enfin, c'est un cliché, mais j'ose le répéter, en italique éventuellement, la peinture nous apprend à voir.
Et vous, Frédéric Boyer, retransmettre justement dans une nouvelle traduction les paroles de quelqu'un qui écrivait entre 30 et 37 avant Jésus-Christ et qui se pose la question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre? Qu'est-ce qu'il s'agit de transmettre pour vous en retraduisant les Géorgiques de Virgile?
C'est un peu la même chose que ce que vient de dire Yannick, c'est-à-dire, de toute façon, c'est un acte culturel, effectivement, il faut le porter aujourd'hui, c'est-à-dire quelle civilisation peut tenir si de génération en génération, on ne reprend pas à frais nouveaux les choses, on ne reprend pas un regard, on ne remet pas au cœur même de notre perplexité les œuvres anciennes, on ne leur redonne pas un sens, ça marche pas, la civilisation va mourir, va s'effondrer. Alors, moi, je place la traduction à ce niveau-là, effectivement, je veux dire, de toute façon, les grandes civilisations sont des civilisations qui ont beaucoup traduit, et c'est vrai que traduire, c'est se remettre devant un texte ancien et de le refaire travailler, franchement. Et alors, effectivement, on tombe sur des choses difficiles. On se dit comment traduire l'hexamètre dactylique et le vers virgilien.
On en parlera tout à l'heure, on fait une démonstration.
Alors, on se dit, zut, c'est... mais aussi, comment essayer de... C'est ce qu'a très bien expliqué Yannick, c'est-à-dire comment... Enfin, finalement, l'idée, c'est comment moi je vais me positionner et face à cette œuvre ancienne, et comment finalement je vais l'accueillir. Et en l'accueillant, c'est une question d'hospitalité qui peut être très très forte, très belle. Il n'y a pas de culture sans hospitalité. Donc, je fais hospitalité au Caravage ou à Virgile ou à ce que vous voulez. Et de cette hospitalité, il peut y avoir des tensions. D'ailleurs, il peut y avoir et on crée quelque chose. Voilà, on crée aussi avec les autres. Et c'est ce rapport-là qui est beau, qui est fort et qui est effectivement aujourd'hui nécessaire.
C'est intéressant cette idée d'hospitalité, parce que c'est vrai que tous les deux vous vous confrontez, je le disais à l'orée de cette émission, à l'œuvre d'un autre. Vous êtes des créateurs, vous écrivez des romans aussi, qui doivent à beaucoup de gens, mais en tout cas qui sont signés par vous. Ces livres-là sont signés par vous, mais néanmoins il y a une matière première. D'ailleurs jusqu'au titre, Virgile est présent, Caravage aussi. Qu'est-ce que ça suppose quand on est créateur justement de se confronter à l'œuvre d'un autre? Est-ce que c'est pour accueillir? Est-ce que ça suppose une humilité plus grande ou au contraire une je pense à tiens ferme ta couronne, une vigilance ou une fermeté dans ce qu'on est, encore plus solide pour justement se confronter à des œuvres aussi géniales.
Mais il peut y avoir une forme de présomption, effectivement, d'imaginer qu'on puisse avoir un rapport avec Virgile, avec le Caravage. Ça demande un effort. Alors c'est très paradoxal, ça demande un effort de retrait, de se rendre disponible entièrement à quelqu'un d'autre que nous. C'est presque une forme d'amour, au fond. Mais il y a aussi une présomption de se dire « Moi, j'entends ça, je suis capable d'écouter cette parole-là, de voir ces tableaux-là. » Et il faut se monter un peu le bourrichon, comme dit Flaubert dans sa correspondance. Mais au fond, un artiste, s'il se monte pas un peu le bourrichon, il n'arrivera à rien.
Alors, vous êtes monté le bourrichon Frédéric Boyer aussi, sur Virgile.
Exactement. Non, mais c'est... Ce que je disais tout à l'heure, c'est absolument nécessaire qu'il y ait cette. C'est aussi un combat, c'est aussi une confrontation. Enfin, moi, la traduction, je vis ça souvent comme un combat, et c'est ce qui me fait plaisir d'ailleurs. Enfin, ça donne un peu d'énergie aussi de se mettre un peu à traduire, parce que je dis, on est plus souvent face à des choses insolubles qu'à des solutions, effectivement. Transmettre, bon, il y a le problème de la versification, mais il y a aussi le problème des contextes, ou l'intérêt d'un contemporain de Virgile pour le montage mythologique. Aujourd'hui, toutes ces histoires, d'abord, la plupart du temps, on ne sait plus qui est Aristée, tout ça, voilà. Non, mais donc, comment on fait face à ça, effectivement? Donc, alors il faut leur redonner du sens, il faut essayer de retrouver un langage qui résonne de façon contemporaine.
Donc en combattant, il y a vraiment cette...
c'est une lutte, la traduction, bien sûr.
Et sur ce mot de fascination, alors Pascal Quignard n'est pas là, mais c'est vrai qu'il faut lui rendre aussi cette grâce qu'il nous a faite de nous transmettre cette étymologie, donc fascination, qui vient de fascinus, le sexe masculin dressé chez les Romains, et qui disait un peu une forme de pétrification qui s'emparait des hommes ou des animaux devant ce désir parfois angoissant. Vous diriez que Virgile, Frédéric Boyer, vous fascine, que Caravage, Yannick Enel, vous fascine?
Alors oui, au sens, mais alors pas au sens quignardien, qui est un sens très passif. Et peut-être que ça me fait des choses sexuelles, évidemment, parce que la peinture de Caravage, et je pense toute peinture qu'on aime, relève d'un point aphrodisiaque. Mmh. Ça soulève le désir, au fond. Et là, je parle pas seulement des figures charmantes qu'il peut y avoir, notamment celle de Judith ou celle d'une Madeleine pénitente dans le Caravage. Je parle même de nature morte. D'ailleurs, le mot nature morte est très fâcheux. Je parle du vivant dans ce qui se montre dans toute peinture. Pour moi, c'est comme les phrases de réveil. C'est comme ces phrases qu'on se récite comme des mantras, qu'on s'injecte.
Alors, ces phrases de réveil, qu'est-ce que vous entendez?
Je veux dire par là ce que j'aime dans la littérature plus que tout.
Oui.
Et dans la prose, ce sont les éclats de poésie d'un coup, les flèches.
Et vous les appelez des phrases de réveil.
Des phrases de réveil, oui. Mmh. Je les souligne abondamment et souvent je relis non pas un livre en entier, mais je relis ce que j'ai souligné, ça me réveille, voilà. Mmh. Des comprimés de vie. Proust appelait ça des comprimés de vie.
C'est très bien. La fascination. Virgile vous fascine, Frédéric Boyer?
Bon, de toute façon toute simple, oui, parce que c'est un auteur tellement qui a traversé tellement de choses, effectivement. Mais pour effectivement rentrer comme ça dans une œuvre et la traduire, bien sûr, il faut se situer à un niveau de fascination. Il faut aussi le travailler et puis le dépasser. Mais là, c'est plutôt le rapport au langage. Et c'est ce que vient de dire Yannick, est très beau. C'est-à-dire qu'effectivement, même dans une œuvre comme ça, quand on traduit, tout d'un coup, on tombe sur des éclats, effectivement. Et on se dit, ah ben là, il y a quelque chose. Et alors, on va essayer de tirer l'œuvre à partir de ces éclats et de la retravailler, de la remodeler à partir de ces éclats. Mais c'est des éclats que moi, je vais lire et que j'entends moi. Yannick en aurait vu peut-être d'autres, vous en avez vu peut-être d'autres, voilà. Mais
chacun a ses phrases de réveil.
Mais bien sûr, oui.
Chacun a ses sommeils, donc chacun.
Oui, ouais. Tout à fait. Mais dans cette œuvre-là particulière, les Géorgiques, on voit bien comment il travaille. Il essaye de remplir un peu le contrat, de parler des techniques agricoles en 4 livres bien précis. Et à chaque fois, hop, il digresse. Et ces digressions, elles sont toutes magnifiques. Hein,
Alors on va rentrer avec vous, on va rentrer dans ces géorgiques devenus le souci de la terre, donc de Virgile, puisque vous avez retraduit ce texte admirable, fascinant. On écoute d'abord, Frédéric Boyer, votre choix musical. Vous avez choisi un morceau de l'acte 3 d'Orphée et Eurydice de Gluck, dirigé par John Elliott Gardiner, interprété par Anne-Sophie von Otter.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Orphée Eurydice, acte 3 de Gluck, dirigé par John Elliott Gardiner, interprété par Anne-Sophie von Otter. C'est le choix de Frédéric Boyer qui publie Le souci de la terre, nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile. Je ne vais pas vous demander pourquoi ce choix. Orphée surgit à la fin des Géorgiques.
Voilà, et c'était un peu inattendu puisque d'après son commentateur célèbre, enfin, on sait que ça a été une décision tardive dans l'élaboration du texte, puisqu'avant, normalement, le texte devait finir sur l'éloge d'un des préfets d'Égypte qui était proche de Mécène, le Mécène de Virgile. Oui. Et il se trouve que ce brave préfet d'Égypte est tombé en disgrâce, donc il est le poète, parce qu'à l'époque les poètes étaient quand même soumis un peu à des, le poète a dû changer. Et alors, je ne sais pas si c'est juste ou si c'est, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il va devoir finir son œuvre sur quelque chose, et tout d'un coup, il y a cette intuition qu'il faut parler de la légende d'Orphée et d'Eurydice, et c'est lui qui va la remettre au goût du jour à l'époque.
Hein. Ah oui, parce qu'elle était un peu
oubliée.
Ah oui.
Elle était un peu oubliée, et donc après, Ovide viendra tout ça, mais c'est lui qui va la remettre
c'est
au goût du jour.
C'est Virgile qui ressuscite
Orphée.
Et
il part de la vraie, enfin, du vrai récit mythologique hellénistique, qui est que effectivement, Aristée, une divinité, poursuit Eurydice, probablement pour la violer. Dans sa fuite, Eurydice se fait piquer par un serpent et meurt, etc. On connaît la suite. Et pour venger la mort d'Eurydice, les dieux tuent les abeilles d'Aristée. Et c'est très beau, parce que d'abord, d'une part, ça veut dire que ce texte finit sur la mort des abeilles, et pour Virgile, c'est comme un symbole de la fin de quelque chose, de la fin du monde, en quelque
sorte. Et on en parle aujourd'hui, c'est ce qu'on
disait. Et aussi, il y a cette question, donc, est-ce qu'on peut quitter la Terre, y retourner, et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, et c'est toute la signification de ce texte, franchement, je crois. Il passe son temps à décrire la Terre et à se poser la question s'il y a un autre monde que la Terre possible, et finir sur cette histoire d'Orphée et d'Eurydice, où effectivement Orphée est capable d'émouvoir les morts, mais il n'est pas capable d'émouvoir les vivants, hein, et il essaye de prouver que l'on peut passer d'un monde à l'autre, ça ne marche pas, et puisqu'Orphée lui-même est déchiqueté.
Et il a la tête, d'ailleurs, ça va plaire à Yannick Enel, si je puis dire. C'est une décollation. La tête est coupée, comme dans le Caravage, comme dans ce tableau qui vous a troublé tant quand vous aviez 15 ans, sans savoir que c'était.
Je n'avais pas encore vu effectivement le sort qui m'était réservé.
Oui. Judith et Holoferne, hein, voilà, parce que je rappelle pour celles et ceux qui n'arriveraient que maintenant, il s'agit de ce tableau, donc Judith et Holoferne du Caravage, qui est recadré en fait dans un livre sur la peinture italienne, hein, vous avez 15 ans.
Moi, c'est comme ça que j'ai découvert effectivement, non pas le Caravage, parce que j'ignorais que c'était le Caravage, mais que j'ai découvert que la peinture, c'était plus que la peinture. Que la peinture nous sautait au visage, au fond, qu'on pouvait même tomber amoureux d'une figure peinte.
Et oui. Et alors Orphée, je cite Virgile, traduit par Frédéric Boyer, cet Orphée malheureux qui appelle sur toi ce châtiment que tu ne mérites pas, à moins que ne s'y opposent les destins et qui se déchaîne avec cruauté à cause de sa femme perdue, qui a fui tête baissée le long de la rivière, etc., etc. Alors ce souci de la terre chez Gallimard, hein, je le disais, nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, 2000 vers écrits en 37 et 30 avant Jésus-Christ, considéré comme l'un des sommets de la création poétique occidentale. Vous en parliez, donc commandé par le dénommé Mécène, hein, dont le nom de famille est devenu un nom commun, Caius Silius Mécénas, proche de l'empereur Auguste, célèbre pour avoir consacré sa fortune à promouvoir les arts et les lettres. Alors ce livre est dédié à Octavien. Il se présente, vous en avez parlé, comme un texte dédié à ce qu'on appelait la res rustica, la chose agreste, sous la forme de 4 livres, les 2 premiers consacrés à l'agriculture, les 2 suivants à l'élevage, dont les abeilles. Il doit beaucoup à Hésiode, à Varron aussi, dans sa façon de parler de ce qu'on appelait les travaux et les jours. Mais c'est beaucoup plus qu'un traité d'agriculture ou une compilation du savoir de l'époque sur l'agriculture et sur l'élevage, parce que, vous nous le rappeliez, Frédéric Boyer, on est dans un contexte d'après-guerre civile et il s'agit concrètement de prodiguer des soins à cette terre meurtrie que nous habitons. Est-ce que c'est... un peu contrairement d'ailleurs au bucolique du même Virgile, où il s'agissait plus de chanter la vie pastorale, c'est ce côté concret, bienveillant, dans le soin qu'on apporte à la terre, qui rend ce texte, selon vous, plus audible pour des contemporains que, par exemple, les bucoliques, ou qui en fait la nécessité?
Moi, je pense que c'est un texte plus complexe et donc plus intéressant, effectivement, que les bucoliques, par exemple. Et il retrouve quelque chose même qu'il fera après dans l'Énéide, enfin, donc il ne le retrouve pas, parce que ça précède, mais il travaille ce rapport du destin humain dans le monde et dans la nature. C'est un livre, en fait, moi, plus j'ai travaillé, alors peut-être j'étais influencé, mais c'est un livre très sombre. Chacun des quatre livres se termine sur une catastrophe, soit la guerre civile, soit les catastrophes naturelles dont il parle beaucoup, hein, les tempêtes, les inondations, les ravages, soit effectivement la mort, la destruction des abeilles, soit la fin du livre 3 sur l'élevage des bêtes, c'est la gale, hein, qui ravage tout un troupeau. Et donc, c'est un livre, effectivement, qui à la fois est dans des descriptions magnifiques, très précises de l'observation du monde. Hein, ça va de la petite fourmi qui transporte tous les jours sur le même petit chemin ses œufs, à des descriptions des oiseaux, où, quand la tempête arrive, de montrer que tous les animaux se mettent comme ça, une espèce de danse pour préparer l'arrivée des pluies. Voilà. Et en même temps, des descriptions assez terribles, hein, comme il dit, toute chose croit et décroît et court au pire. Voilà, c'est le destin. Et donc, à chaque fois, il fait résonner les malheurs, les dangers, et surtout là, quelque chose qui peut résonner aujourd'hui, la précarité, la fragilité de toute vie sur Terre.
Alors, je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait de ce souci de la Terre, Frédéric Boyer.
Printemps neuf. Quand fond l'eau glacée des montagnes blanches, le vent défait le sol poudreux, la charrue déjà plantée, le taureau commence pour moi à gémir et le soc râpé par le sillon à reluire. Oui, ce champ, pour répondre à l'avidité du paysan, a deux fois le soleil et deux fois le froid éprouvé, jusqu'à donner d'immenses récoltes à faire craquer les greniers. Mais avant de fendre par le fer une plaine inconnue, prendre le temps d'étudier les vents et les caprices du ciel, l'art des cultures locales et ancestrales, ce que chaque région accepte ou refuse de produire, ici des blés, là bonheur des raisins, ailleurs pousses d'arbres, ou désordre de graminées vertes. Oui, regarde, etc.
Etc. Virgile, les géorgiques devenus. Donc le souci de la Terre. Je voulais vous demander, Frédéric Boyer, vous parliez tout à l'heure des hexamètres dactyliques. Vous avez dit qu'il fallait renouveler la réception de ce texte. Vous faites précéder cette traduction d'une très belle citation de Wittgenstein que je lis. « Mon idée n'est pas de rafraîchir un ancien style. Il ne s'agit pas de prendre d'anciennes formes et de les ordonner selon les exigences du goût nouveau. Ce dont il s'agit en réalité, c'est de parler, peut-être inconsciemment, la langue ancienne, mais de la parler de telle manière qu'elle appartienne au nouveau monde, sans pour autant appartenir nécessairement au goût de celui-ci. » C'est dans les remarques mêlées, citées par Emmanuel Hocquart dans le cours de Pise. Comment on fait pour trouver justement cette langue presque impossible qui appartienne au nouveau monde sans appartenir nécessairement au goût de celle-ci et qui donc a fondé cette entreprise de nouvelles traductions?
Alors, on peut pas mieux dire que Wittgenstein, là, c'est compliqué. C'est la question de la traduction. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, voilà, vous avez un problème de poétique. Voilà. Il faut partir de ce vers, qui est un vers ancien, qui n'est pas reproductible en français. C'est pas vrai, puisque nous, on est sur un vers syllabique, et le latin ne l'était pas, et donc c'est très compliqué. Alors, je sais qu'il y a des gens très érudits qui essayent de le faire. On peut toujours, hein, mais inventer des accentuations en français pour essayer de retrouver un vers comme ça. Mais, ça donne pas, il faut l'avouer, ça donne pas quelque chose de lisible. Donc, il faut retrouver quelque chose. Et donc, on part de ce qu'on sait, on part de ce qu'on, aussi de ce qu'on sait pas, mais enfin, donc on part aussi de toute l'aventure poétique contemporaine et on essaye de reconstituer, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de créer un vers libre, sous forme de versets, qui essaye de faire entendre un rythme. Alors, c'est un rythme forcément nouveau, mais qui, moi, je l'espère, on peut toujours critiquer après, j'espère, essaye de restituer quelque chose quand même du rythme latin.
Et comment vous le lisez, vous, le latin? Est-ce que vous essayez, vous, de le musicaliser, le vers de Virgile?
Bah oui, d'abord, parce que c'était un vers très musical.
Hein, vous pourriez pour nous, nous offrir ce plaisir?
De quoi?
Un peu de Virgile de dans le texte.
Bah, je connais pas par cœur, par contre.
Voilà.
Vere novo gelidus canis cum montibus humor, licitur et zephiro putris e glaeba resoluit, depresso incipiat iam tum mi torus aratro, ingemere sulco atritus simplendere homer. Mais voilà, c'est le vers se construit sur des accentuations, il est très fluide. Et en français, bon, alors la plupart des traducteurs ont traduit par l'alexandrin, hein, qui est une bonne idée effectivement, puisque c'est une façon. L'alexandrin est un vers extrêmement souple et suffisamment ample pour permettre comme ça de restituer l'accentuation virgilienne. Mais vous ça donne, on l'a vu avec Maurice Ra, enfin je sais pas si Maurice Ra c'était pas en vers d'ailleurs, parce que la plupart des traductions en fait aussi sont finalement sont en prose. Mais on voit tout de suite dans les traductions anciennes, il y a quelque chose, on veut faire antique, si vous voulez. Alors là, il dit les monts chenus, d'ailleurs, c'est pas du tout les monts chenus, d'ailleurs, en latin, mais enfin bon, peu importe.
Vous n'avez pas du tout voulu faire antique, en fait, c'est le contraire. Non, vous avez choisi des vers libres, hein, totalement.
On en est plein, des vers libres, et essayer de rendre, au contraire, la radicalité du latin. Hein. Par exemple, au printemps nouveau, alors, bon, c'est une bonne traduction, mais en latin, vous avez vere novo, c'est le printemps neuf, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de rajouter, parce que le latin est une langue très parataxique, et alors que nous, on est une langue très articulée. Ça, donc, on n'est pas... Et, par exemple, ça rejoint le titre de Yannick, Solitude Caravage, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout le temps d'articuler comme on le fait dans la langue. On peut accélérer les choses. Donc, effectivement, bon, printemps neuf, on accélère. On accélère le vers, on donne un rythme. Et il faut inventer un rythme. Il faut que soi-même, on puisse créer un rythme en traduisant, sinon on perd le fil de la traduction.
Vous faites précéder ce texte par une préface que vous avez intitulée « Faire Virgile à l'infinitif ». Il est question de deuil qui vous ont frappé, Anne et Paul, vous les mentionnez comme ça. Vous avez cette phrase aussi que je voudrais citer. « Je me rappelle avoir pensé qu'il fallait que je leur parle à tous les deux, mes chers disparus, de cette traduction qui m'apparaissait soudain autant impossible à achever qu'il le serait de m'entretenir désormais avec eux. Symptôme dérisoire, j'attribuais alors à mon chagrin mon impuissance à trouver la forme susceptible dans la langue française contemporaine de faire écho d'une façon ou d'une autre à la scansion latine de l'hexamètre dactylique. » Qu'est-ce qu'il y avait comme rapport justement entre ce qui était votre vie et ce deuil? On a parlé d'Orphée et d'Eurydice d'ailleurs au début de cette interview, et l'impossibilité justement à trouver une langue qui permette de faire réentendre Virgile. Pourquoi il fallait leur parler?
Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, cette histoire d'Orphée qui apparaît, alors qu'effectivement, je suis comme ça dans le malheur, je me retrouve un peu à la place d'Orphée, voilà, à ce moment-là, et que ensuite, je peux le dire, c'était Orphée Eurydice, c'était une histoire que Anne du Fourmentel avait aimé beaucoup et dont elle avait parlé dans plusieurs de ses livres. Et c'est quelque chose dont on avait parlé beaucoup aussi. On n'était pas d'accord d'ailleurs sur l'interprétation de cette histoire. Et je retrouve avec Virgile cette chose, ça m'a beaucoup troublé. Et alors finalement, ça a imprimé une coloration à ma lecture de ce texte. Et après, effectivement, je cherchais une image dans le chagrin pour dire comme c'est difficile de traduire les choses. Et bon, je dis toujours, enfin je l'ai dit dans un livre précédent, la traduction, c'est notre travail d'exister. Vous passez votre temps, Christophe, à traduire. Voilà, parce que d'abord, traduire les sentiments de l'autre, c'est assez compliqué, mais on y est convoqué tout le temps. Se traduire soi-même, traduire ce qui nous arrive, on est dans l'effort de la traduction. Et c'était une belle image qu'effectivement, quand on traduit aussi, on parle aux autres, on parle à l'autre, on se parle, on parle... Voilà, et c'est vrai que moi, je parlais beaucoup de ce que je faisais avec Anne et avec Paul, c'est vrai. Et donc là, j'avais plus ça. Bon,
alors, Anne du Fourmentel et Paul Tchaïkovski, Laurence.
Et après, il y a eu cette idée très forte qui m'a traversé. C'est-à-dire que tout le monde autour de moi s'est dit à dire, tu sais, elle te parle, il te parle. Hélas, non. Ça, je suis un peu dur, mais non. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler aux morts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler aux morts, mais que les morts ne nous parlent pas, c'est pas vrai. C'est à nous, vivants, de faire ce travail de la parole avec les morts, ce qui est très très difficile.
Yannick Haenel, vous avez eu aussi à faire ce travail de discussion, de dialogue avec les morts, c'est aussi d'ailleurs une forme, un genre antique, le dialogue des morts, pour trouver cette langue adéquate qui permettait de parler de Caravage.
Mais déjà, tenter de mettre en phrase quelque chose qui ne relève que du visible, et a fortiori d'un visible silencieux, c'est-à-dire le monde même de la peinture, ça implique un tour de force. Moi, j'avais insisté pour qu'il n'y ait pas d'image dans le livre, à part la couverture. Et donc, mon idée, c'était de trouver une vélocité et aussi une forme méditative, enfin, une forme de lenteur, une forme de vitesse pour faire voir les tableaux. Souvent, je suis frustré quand je lis des monographies, pas seulement sur le Caravage, par le fait que les auteurs ne décrivent pas vraiment les tableaux.
L'ekphrasis s'est perdu.
Eh ben, je pense que l'ekphrasis, c'est l'enfance de l'art, et elle est devant nous, c'est l'avenir de l'art aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé m'astreindre à décrire avec précision les tableaux pour trouver le sens ou la spiritualité qu'il y a dans le Caravage.
Je vous arrête, vous avez une formule qui m'a étonné, c'est l'ekphrasis, donc cette description des tableaux par les mots, genre aussi antique, c'est l'avenir de l'art, vous avez dit.
Mais oui, ça relève de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que notre sensibilité est en train d'être kidnappée, broyée, détruite. Et s'astreindre, si je puis dire, c'est aussi un grand jeu, à décrire tout simplement ce qu'on voit, c'est la grande chose au fond. C'est la chose la plus simple, mais c'est la chose qu'on évite. Je suis toujours frappé par, quand on discute avec des amis, ils ont vu un film ou une œuvre, et je leur dis « Ah bon, tiens, ça parle de quoi ?» Et tout ça est expédié en quelques secondes sous forme de pitch plus ou moins jubilatoire, alors même qu'on pourrait en parler pendant des heures, et moi c'est ce que je préfère.
Et sur ce rapport aux morts dont on parlait avec Frédéric Boyer, vous avez rappelé tout à l'heure que ces personnages que l'on voit dans les toiles de Caravage, et d'autres évidemment, mais de Caravage en tout cas, ont été de véritables personnes, on connaît leurs noms d'ailleurs, ils ne sont plus des courtisanes, des filles du peuple, des ragazzi comme vous disiez tout à l'heure. Il y a aussi ce noir qui était fait avec la poudre des ossements. Donc la mort est tout le temps présente. La vie et la mort, en fait, dans ces tableaux.
Je pense que quand on peint, on a affaire à la matière même des morts. J'avais lu quelque part que le Caravage, avec certains de ses amis, allait piller les tombeaux, enfin, pour y récupérer les ossements et en faire de la poudre. Il y a aussi ce qu'on appelle le noir animal, fait avec des graisses d'animaux. Et donc, effectivement, la texture même de la peinture relève d'une transmission quasi biologique de ce qui est mort et qui va renaître.
Enfin, le souci des morts aussi, le souci de la terre, le souci des morts.
Absolument. Ouais. Et pour un peintre comme le Caravage, qui sans cesse fait face à la mort, on dit toujours qu'on ne peut pas soutenir la mort ni le soleil. Au fond, s'il y en a bien un qui l'a fait, voilà, s'il y en a un qui l'a fait, jusqu'à en mourir, enfin à 39 ans, enfin il a brûlé sa vie, c'est bien le Caravage. Il y a le lieu intérieur de sa peinture, c'est ça qui m'intéresse, son expérience intérieure, au-delà de la légende. Ce lieu intérieur n'est pas pour rien celui du clair-obscur. Chacune de ses peintures relève d'une dramaturgie où la lumière et les ténèbres s'affrontent de manière très catholique. Enfin, on oublie toujours que ce mauvais garçon, ce voyou, cet homme terrible, belliqueux, peut-être très peu sympathique, mais fascinant, on oublie que c'est un homme qui avait une piété immense, enfin une piété presque insensée, qui débordait le cadre de toute religion. Jamais il ne s'est agenouillé devant aucune autorité, mais il cherchait le Christ, voilà.
On écoute votre choix musical, Yannick Enel, et puis on reparle de cette solitude de Caravage que vous publiez chez Fayard. On est là, voilà, avec aussi Frédéric Boyer qui publie cette nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, Le souci de la terre. Vous avez choisi Gérard Manset, Entrer dans le rêve.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Ramenez les traces aux yeux et entrez dans le rêve. Pour prendre la vie des autres, on l'a laissée quand le jour s'achève. Voir les couleurs, voir les formes, enfin marcher pendant que les autres dorment. Voir les couleurs, voir les formes. Les villes sont des villes bordées de nuit, des peuplées d'animaux qui marchent sans bruit. Toujours dans votre dos, la peur vous suit. Toujours dans votre dos, la peur. Ramenez le drap sur vos yeux, entrez dans le rêve. Allumez l'écran merveilleux quand le jour s'achève. Retrouvez l'amour blessé au fond du tiroir, on l'avait laissé. Retrouvez l'amour blessé. Découpez le monde à coups de rasoir pour voir au cœur du fruit. Noyau noir, la vie n'est pas la vie de ce qu'on nous fait croire. La vie n'est pas la vie.
En Entrée dans le rêve de Gérard Manset, c'est le choix musical de Yannick Enel qui publie La Solitude Caravage chez Fayard. Entrée dans le rêve, c'est les premières pages de votre livre.
Oui, et puis il dit voir les couleurs, voir les formes. Voilà, c'est une invitation à se réveiller.
Exactement, et à prononcer ces phrases de réveil dont vous nous parliez. Alors cette Solitude Caravage est un texte hybride, en fait. D'ailleurs, un texte autant sur vous que sur le Caravage et sur le rapport qu'un écrivain peut avoir à la peinture. Je rappelle que vous avez obtenu le prix Médicis pour Tiens ferme ta couronne chez Gallimard. Et ce nouveau livre, La Solitude Caravage, s'ouvre sur la contemplation d'une jeune femme par un jeune homme qui a 15 ans, qui s'ennuie dans son internat militaire et qui tombe donc sur cette jeune femme qui est la Judith, en fait, du tableau. De Judith et Holoferne du Caravage, sauf que ce tableau est recadré puisque c'est une reproduction dans un livre, et évidemment on voit juste la jeune femme et pas du tout ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire couper la tête d'un homme. Cet endroit, cet internat, c'est celui du Prytanée militaire de la Flèche, et en fait la Flèche, j'ai l'impression que c'est plutôt cette Judith qui vous frappe au cœur. Yannick Enel, vous soulignez ses sourcils froncés, ses seins moulés par le chemisier, sa gorge triomphante, là vous citez Baudelaire. Et puis cette perle qui luit sous son oreille, une adorable perle fixée par un nœud de velours noir dont la boucle formait un papillon. Et il arrive, écrivez-vous, qu'un détail rivalise avec le monde. Je parlais du temps qui s'arrête, presque d'un coup de foudre finalement entre cette créature de peinture et puis ce jeune garçon. Généralement, le coup de foudre, ça implique l'arrêt de la parole. Pourquoi était-il pour vous important de, on parlait d'ekphrasis tout à l'heure, mais de remettre des mots, de remettre de la parole devant ce qui devrait être du silence, en fait?
Mais précisément, je pense que la contemplation implique, d'une part, effectivement, une manière d'accueillir ce silence, mais la contemplation, ça ne va pas sans dire. Enfin, moi, ce que j'aime, on en parle depuis le début de l'émission, ce que j'aime, c'est pouvoir transmettre des sensations. Et ce qui arrive avec le Caravage relève nécessairement à chaque tableau d'une forme d'assaut immobile, de quelque chose qui vous saute à la gorge alors qu'il ne s'est rien passé. Et cette métamorphose que ça implique, je voulais la raconter. Voilà, c'est la métamorphose d'une vie aussi. C'est pas Rembrandt, c'est pas Titien que j'admire évidemment, mais que j'admire avec plus de distance. Le Caravage, de manière étrange, me secoue. Voilà, parce que ça a à voir avec mon histoire sexuelle, voilà, tout simplement, et que c'est un peintre qui agit sur le système nerveux et qui choisit de re-raconter toutes les histoires du monde, que ce soit des histoires bibliques, parce que Judith et Holoferne, ça vient du livre de Judith, évidemment, qui tue, comment dire, le général assyrien Holoferne, qui a assiégé une ville qui est Bétulie, donc elle va sauver le peuple juif. Il re-raconte toutes les histoires du monde à travers quelque chose qui est une secousse à la fois des couleurs, il réinvente la peinture, et il réinvente les récits. Bon, personnellement, je n'ai jamais vu le Christ comme dans le Caravage, il le peint une dizaine de fois. Je crois que le lieu du Caravage, c'est le torse. Et on voit le torse du Christ comme jamais, enfin, c'est inouï.
Le torse du Christ, le torse de Judith, qui d'ailleurs avait été peinte nue
départ. Oui, oui, hein. C'est une technique de l'époque, enfin, on recouvre après. Voilà.
Et on recouvre après. Est-ce que vous avez dû procéder, justement, à une dans la langue que vous avez choisie pour dire, justement, ces tableaux du Caravage, pour dire aussi l'histoire, à aussi couvrir, découvrir, recouvrir? Est-ce que vous avez travaillé différemment?
Exactement, c'est la grande question pour moi, c'est qu'il a fallu trouver une écriture. Parce qu'il n'était pas seulement question de raconter la vie du Caravage, je l'ai fait, mais d'autres l'ont fait. Il y a de la documentation qui est arrivée entre temps, et donc il y a des choses nouvelles, disons. Mais c'était surtout l'idée que pour arriver à dire les tableaux, on ne peut pas seulement les décrire, il faut se mettre à disposition avec une écriture. L'écriture, ça écoute le monde, c'est quelque chose de prégnant, comme une belle éponge qui va trouver de manière liquide comment réactiver ce qui semble immobile. Alors voilà, il a fallu trouver une écriture. Je pense aussi que la littérature, c'est peut-être le lieu le plus seul. Il y a une belle solitude de la littérature, à savoir que c'est un langage qui se sépare de plus en plus, comme un bateau qui peut-être va couler, je sais pas, mais peut-être va découvrir des contrées nouvelles, qui se sépare de plus en plus du langage de communication. Au fond, il n'y a que dans la littérature qu'on se met à à savourer, à réfléchir, à l'intérieur même du langage dont on fait un usage de plus en plus déplorable, par ailleurs.
Vous êtes d'accord avec cette définition, Frédéric Boyer ?
Oui, bien sûr. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est effectivement, c'est souvent les écrivains qui sont les plus audacieux regardeurs de la peinture quand même. Et parce que effectivement ils sont au plus proche. Je le dis parce que moi j'ai jamais fait, donc au moins je suis pas assez. Au moins Yannick l'a fait, parce qu'ils sont au plus proche du courage de l'acte de langage. Et le langage est toujours dans une espèce de confrontation avec le visible. Il essaye de créer du visible, de dire. Alors moi, après je ramène mes textes, mais c'est l'ouverture de la Bible. Hein, voilà. Vous dites lumière, il y a la lumière. Et l'écrivain, il est dans ce rapport-là. C'est pas toujours facile, mais c'est beau tout ce que dit Yannick effectivement sur le rapport de l'écrivain au peintre. C'est une très belle histoire, ça. Hein. C'est une très belle histoire.
Alors, en votre honneur, d'ailleurs, Frédéric Boyer, j'ai choisi, et je crois que Yannick est d'accord, pour l'extrait que Yannick Hennel va nous lire, justement, peut-être quelque chose d'un peu plus antique hein, que biblique, l'idée de mystère, de révélation et de peinture. On est à Pompéi, on vous écoute, Yannick Hennel.
Quel rapport entre le Caravage et Pompéi ? Même s'il n'a jamais pu connaître cette chambre des mystères, j'ai l'intuition qu'une telle peinture lui était familière, à lui, pas aux autres. Elle remontait dans son sang comme une mémoire inconnue, comme des atomes qui parcourent les époques et rapprochent la matière. Peut-être même comblait-elle, sans qu'il la connaisse, son exigence d'un langage précis, cru et nocturne, et sa détestation de l'idéalisme. Dans les villas romaines, des fresques de nature morte couvraient les murs, et des pavements de mosaïques représentaient, avec leurs tesselles colorées, les reliefs des festins qui y étaient donnés. On est frappé, lorsqu'on découvre ces compositions, d'y retrouver la clarté des fruits qu'a peint le Caravage avec tant de virtuosité pour sa corbeille, aussi bien que pour ses bacchus. Il y a des figues violacées, des grappes de raisin, des feuillages dont le pourtour se recroqueville et des instruments de musique.
Merci Yannick Hennel. Merci. Voilà un extrait de La Solitude Caravage que vous faites paraître chez Fayard. Je voulais citer quelque chose encore de ce texte Yannick Hennel. Le monde peint, puisque vous parliez de la Bible, hein, Frédéric Boyer, le monde peint a partie liée au royaume et qu'en un sens il est lui-même le royaume, ça va vous plaire. Cette clé mystique, elle est présente dans les géorgiques, enfin dans le souci de la terre, où on est tellement dans le concret que.
Non, on n'est pas que dans le concret, puisqu'il s'interroge. Il y a pas vraiment de. C'est un peu l'inverse plutôt. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est très bouleversant dans ce livre. C'est parce que ça résonne aujourd'hui de façon étrange, hein, quand même. Alors c'est moi qui le pousse peut-être, mais je ne crois pas sincèrement. C'est cet appel un peu désespéré à la précarité du vivant, quoi. Il dit il faut absolument que l'on prenne conscience de cette fragilité qui est la nôtre et qui est celle de notre lien à la terre. Et pour ça, enfin, il insiste sur la mort d'une façon obsédante dans ce livre.
Et je cite une dernière phrase des géorgiques, donc devenue Le Souci de la Terre. Voilà, en hommage cette fois-ci réciproque de Frédéric Boyer à Yannick Hennel. Et même encore une fois sa tête arrachée à la blancheur de son cou qui roulait dans le gouffre emporté par le fleuve. Eurydice appelait sa voix et sa langue glacée une fois sa vie enfuie. Malheureuse Eurydice, et le long du fleuve sur les rives, l'écho répétait Eurydice. Voilà. C'est pas mal.
Magnifique.
Merci à tous les deux. Merci Frédéric Boyer. Merci Yannick Hennel. Je rappelle le titre de vos ouvrages, donc Le Souci de la Terre, nouvelle traduction des géorgiques précédée de Fer Virgile par Frédéric Boyer. C'est chez Gallimard. Yannick Hennel, La Solitude Caravage, c'est chez Fayard. Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, Cédric Châtelus à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini et réécouter sur franceculture.fr. 7h avec Virgile et le Caravage via Frédéric Boyer et Yannick Hennel.